Alors.
Je me souviens que Pierre Huyghe avait abordé la question de la célébration dans son œuvre, en particulier quand il avait voulu introduire une coutume dans une ville nouvelle. Et je vois le tableau là de Constantin Guy et de Manet. Et on parlait de la pompe tout à l'heure. La pompe, tu disais que c'était le versant public d'un rituel qui aurait pu être mystérieux. Et on parlait juste avant du pouvoir pastoral, lié à un certain classicisme aussi, et on disait Baudelaire vit peut-être dans la nostalgie d'un classicisme. Enfin, et je vois les peintures de Manet, de Constantin Guy, où derrière, à l'arrière-plan de Constantin Guy, on voit défiler les soldats. Enfin, on voit que tout converge vers un point où il y a une espèce de fumée, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc on dirait que ce type d'art-là s'oriente vers une célébration non pastorale, peut-être, parce qu'elle n'est plus dirigée vers un individu ou une divinité en particulier, une espèce de célébration de quelque chose d'anonyme ou d'universel, enfin à la fois anonyme et universel. Et je me demandais si c'était ça pouvait pas être une voie un peu piégée, une voie dangereuse, d'essayer de retrouver le chemin de la pompe. Et des rites et des célébrations, est-ce que ça peut marcher, une espèce de transvaluation de la célébration pour en faire quelque chose de païen, de générique, qui ne s'adresse pas à une catégorie de croyants ou à une catégorie sociale? Et voilà, on disait c'est des héros qui vivent sans pompe. Enfin voilà, est-ce que ça. Oui, pour n'importe qui.
On va voir. L'usage du terme pompe est là. Baudelaire l'utilise. Baudelaire l'utilise. Il dit, par exemple, dans des usages du terme pompe de Baudelaire, par exemple, quand il parle de Delacroix, il parle aussi de la douleur et la pompe qui éclatent si haut dans la religion. La douleur, cette sorte de catholicisme tragique chez Baudelaire, est la pompe de la religion. La douleur est la pompe, c'est-à-dire l'expérience tragique individuelle et l'expérience rituelle de la religion. Dans l'usage de Baudelaire, étymologiquement, pompe vient exactement de ce type de, pompe de ce type de procession dans l'Antiquité, tu sais très bien, non? On suit les corps, les cadavres, ça veut dire les défilés. Des gens, ça veut dire qu'il y a une collectivité qui se montre à l'extérieur. Donc, elle pompe, même étymologiquement, à ce côté d'extériorité, de se montrer à l'extérieur. Et façon de se montrer pour une collectivité. Ça veut dire que c'est une collectivité qui se montre. C'est quelque chose tout simplement organisé qui se montre à l'extérieur. Dans l'usage de Baudelaire, par rapport à la religion a deux choses, la douleur et la pompe. Et je pense facilement comprendre ce que veut dire la pompe dans ces contextes. Mais ils retiennent les concepts de pompe pour parler de ce qui passe dans la vie moderne aussi. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? J'imagine qu'il veut dire peut-être la même chose. J'imagine qu'il veut dire peut-être la même chose. La question du tableau de Guise, et j'insiste, le problème de Baudelaire est qu'il n'a pas un artiste. Et quand il essaie de trouver quelqu'un, qui soit le peintre Baudelaire, et beaucoup plus, les poèmes en prose de Baudelaire sont, je ne sais pas combien de fois, plus importants que Constantin Guise, non, ça veut dire. Et Baudelaire n'a pas besoin de quelqu'un pour penser, mais quand il essaie de trouver un artiste, il n'arrive pas. Et ce qu'il trouve est un dessinateur, quelqu'un insignifiant, vraiment, c'est pas Delacroix. Baudelaire va défendre Delacroix jusqu'à la fin. Et Delacroix va toujours être son grand artiste. Ça veut dire, Baudelaire n'a pas trouvé dans Constantin Guy le futur de l'humanité. Mais peut-être c'est la chose qu'il a trouvée la plus proche. Non? Donc, quand on a pris les dessins de Guise et les tableaux de Manet, tout simplement pour souligner ce qui apparaît dans les tableaux de Guise et qui n'apparaît pas dans les tableaux de Manet. Ce sont les voitures, les soldats, quelque chose vraiment complètement élégant et pas sans discriminer. Ça veut dire, et comme si dans les tableaux de Manet, tu vois, même les figures et les arbres sont exactement si rigides, la même chose, non? Mais ici, c'est un peu le contraire, non? On voit ce type de montrer la veste, les habits, la voiture, blablabla. Non, ça veut dire qu'il est, on peut dire, le tableau de Manet est trop banal par rapport, non? Par rapport à ça. Ça veut dire qu'il n'y a même rien. Il n'y a même rien là. Mais ça faut simplement pour souligner ça et pour souligner le sujet de Constantin Guis. Les soldats, retour, les batailles, tout ça, c'est simplement j'ai pris ça pour faire la comparaison avec Manet. Mais bien sûr, si on voit tous les dessins et les pompes en Turquie, et les pompes militaires en Turquie, et ce type de choses, elles sont appelées littéralement pompes militaires. Et dans ce contexte, c'est clair, c'est le défilé, non? C'est le défilé. Donc, pour moi, ce que je pense qu'on peut vraiment retenir de l'usage de Baudelaire, de ces termes, et le caractère public et collectif de ces termes. Bien sûr, ce n'est pas un rituel dans le sens, on va le dire, de l'ancien régime, au contraire, plus, parce que si on parle plus fortement de ça, c'est qu'on trouve que Baudelaire est dans un contexte où et tout type de rituel dans la vie quotidienne a peut-être disparu. Et plus avec les réformes de Paris, et avec Haussmann et tout ça, ça veut dire que c'est actualisation d'une pratique héritée, tout ça, est en train de disparaître. Et on avait parlé l'autre jour du livre de Richard Sennett, The Fall of Public Man, la chute de l'homme public. C'est vraiment très intéressant, non? Et la disparition de ce que Richard Sennett appelle les man as actor, l'homme comme acteur. Donc c'est quelqu'un qui, dans lequel la mise en scène est vraiment incorporé, c'est la réalisation constante de quelque chose comme un rituel hérité, non? C'est complètement le contraire que la vie noire pour donner rien, exactement, non? C'est qu'on voit un certain tour de couvrir, par exemple, non? Ça veut dire que c'est vrai qu'au niveau historique réel, on ne parle pas de la même chose. On ne parle pas de la même chose. Mais pour donner, retient ce terme. Retient et il le dit clairement. C'est comme, donc, ce que je comprends ça, c'est qu'il veut, comme façon, retenir ses caractères. Implication collective dans la monstration d'une collectivité. Non, c'est pour moi la chose importante. Plus que faire aucune sorte d'équilibrisme anthropologique ou des choses comme ça. Non, l'horizon est tel qu'il est. L'horizon est l'horizon post-révolutionnaire et l'horizon de le nouveau Paris, qui a le vieux Paris a disparu. Et dans cet horizon, c'est impossible de passer dans un rituel comme ça, non, au niveau sérieux. Mais Baudelaire retient le terme. Baudelaire veut encore. Et quelque chose comme ça, non? Et plus, bon, peut-être on a trop fixé la discussion sur le terme pompe. C'est clair que Baudelaire le dit, mais aussi quand on voit Constantin Guis, on voit l'architecture gothique. Et on voit peut-être la transformation de l'architecture gothique, mais toujours à côté de l'architecture gothique. Et on peut faire beaucoup de, bon, on peut discuter beaucoup sur la liaison de ça avec l'historicisme romantique et ce type de choses, non? Ça veut dire, tout ça vient pour souligner, le sujet n'est pas insignifiant et doit avoir quelque chose comme une dimension historique ou publique vaste, non? C'est ça que je pense que Baudelaire cherche. Je ne sais pas si tu as répondu exactement à ce que tu voulais.
Qu'est-ce qui est dangereux? Je n'ai pas très bien compris votre question. Parce que vous disiez au fond, oui, c'est quoi le danger? Excusez-moi, je vous en montre toujours.
Parce que je vois les deux tableaux.
Ouais.
D'un côté, on a le tableau de Constantin Guis, où il y a une pompe qui est présente. Ces gens sont rassemblés. Il y a une espèce de ligne de fuite assez claire, un point central au tableau. Mmh. Donc on voit que tout converge vers un point qui est caché parce qu'il y a du brouillard, parce qu'il y a des gens, parce qu'il y a quelque chose. Mais tous ces gens-là sont rassemblés comme dans une célébration, comme dans un défilé militaire, comme dans quelque chose qui les rassemble, mais coupé d'un cadre religieux et pastoral. Dans le tableau de Manet, les gens sont rassemblés, regardent tous dans des directions différentes, ont cette espèce de peau blanche dont on parlait tout à l'heure chez l'Olympie. C'est un peu comme une foule morte. C'est que d'un côté, j'ai l'impression que chez Manet, on a la foule du Dieu est mort, enfin, comme une foule d'enterrement, en fait, de Dieu, où on s'assemble, mais on ne sait plus pourquoi, ça n'a plus vraiment de sens. De l'autre côté, chez Guy, on a une foule plus païenne qui célèbre quelque chose dans une direction mais qui n'est plus transcendante, qui vivent l'élégance, qui vivent quelque chose qui se passe. Le danger dans la célébration, pour moi, il est double. C'est soit une célébration qui oublie qu'il y a les célébrations, donc les gens sont comme à un enterrement. Et l'autre, c'est le retour à une célébration du type pastoral, du type grégaire, donc des gens dans des stades, par exemple. Et que d'un autre côté, je me demandais si la célébration... En fait, je réfléchissais, parce qu'on n'a pas encore trouvé les moyens de la critique dans l'art. Quelle forme ça peut prendre? Et je repensais à Huyghe, ou je repensais à d'autres artistes qui travaillent en art de la célébration, qui essayent comme ça de faire des célébrations païennes, un peu à l'antique, où les gens se rassemblent pour quelque chose de divin, mais qu'ils vivent réellement, qui n'est pas coupé d'eux-mêmes. Voilà.
En fait, si je comprends bien, c'est plutôt une critique du concept de célébration.
C'est un questionnement. Je me suis dit, la célébration ne nous sauve de rien si c'est pour nous plonger dans un univers pastoral grégaire. Je repense au cortège dionysiaque chez Nietzsche.
Ouais.
Il dit, d'abord, c'est les orgies, les sacées babyloniennes. Il n'y a aucune différenciation. Ensuite, le culte est importé en Grèce. Il y a une célébration où les gens ressentent cette perte des limites de l'individuation. Donc, cette ouverture brusque à un dehors, la rupture du principe d'intériorité. Et ces gens-là, dans le cortège grec qui n'est plus orgiaque, il y en a qui s'effondrent parce qu'ils ont senti cette rupture-là de l'intérieur vers l'extérieur, qui ressentent cette pure extériorité-là. Et des gens qui s'effondrent. Donc il y a des individualités tragiques qui se forment dans le cortège dionysiaque. À côté de ceux qui vont faire la fête, il y en a qui s'effondrent littéralement.
On va être qui, en fait, dans la jugée, concrètement, ça veut dire quoi? Qui c'est?
Ça veut dire, au milieu d'une célébration critique, il y a une nouvelle collectivité en gestation. Mais une collectivité qui transgresse, une collectivité qui n'est pas pastorale. J'ai l'impression que dans l'art contemporain, ou en général, il y a deux types de célébrations qui s'affrontent. Une célébration au service d'un homme, au service d'une idée transcendante qui est là pour diriger tout le monde, mais d'autres personnes se passent plus en maître de cérémonie pour une collectivité nouvelle, active, qui va essayer d'explorer de nouveaux devenirs.
Oui, alors, j'ai plusieurs réponses. Bon, je pense que moi, l'association d'idées comme ça, la célébration à ces deux tableaux, je sais pas, hein, parce qu'en fait, ce qu'on nous décrit là, c'est la vie passante. C'est-à-dire,
Oui, par rapport à ça,
c'est une chose différente, non? C'est une question par rapport à ce qui passe avec la célébration dans la modernité, et une autre question est qu'est-ce que je voulais dire. Par rapport à ça, ça veut dire, et j'insiste, j'utilisais ça pour souligner que pour Baudelaire, il est toujours plus important une dimension historique, collective et publique. Simplement ça. Et dire ça, qu'il y a quelque chose comme le besoin de maintenir quelque chose qu'on peut relier directement avec quelques rituels plus anciens, tout ça, c'est une chose que je ne peux pas dire en plus. Plus, c'est exactement ça le problème, parce que quand on parle de ce type de rituel public qui n'existe pas dans cette forme de l'oisiveté, peut-être ce qu'on est en train de faire est de faire la première réaction, le spectacle conforme de vie urbaine. Non, c'est en plus le contraire, mais c'est intéressant pour devenir au milieu. Non?
Oui, voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est qu'en fait, tu parles de nouvelle, Pierre Huyghe parle de célébration, c'est très différent. Et vous évoquez aussi l'horizon dionysiaque. Donc c'est-à-dire en fait la tragédie. Donc à mon avis là on a trois choses vraiment très différentes. Hein. C'est-à-dire, je pense que dans la question du
chez Baudelaire, la question c'est plutôt qu'est-ce que c'est qu'un rituel public ? Et on sait au fond qu'est-ce qui caractérise une société aristocratique ou la société d'Ancien Régime, c'est qu'il n'y avait pas d'acte qui ne soit ritualisé. C'est-à-dire que rien n'échappait au rituel. Et ça, c'est très fondamental. Et qu'est-ce qui va arriver avec la démocratie ? C'est ce que Gabriel appelait à propos de Manet la banalité. C'est-à-dire une déritualisation des comportements, tout simplement parce que comme ils sont plus pris dans une structure hiérarchique, c'est-à-dire comme ils ne sont plus adressés ni à des supérieurs ni à des inférieurs, d'une certaine façon, comme la mise en scène de la hiérarchie sociale n'est plus au cœur de la vie sociale, comme l'échange ne passe plus par cette mise en scène, eh bien, d'une certaine façon, il y a une déformalisation de l'existence. Et on peut dire que nous, on est vraiment, j'allais dire, complètement pris dans cette question de la déformalisation de l'existence. Bon. Je pense que ça n'a strictement rien à voir avec la question de la tragédie, au sens stricto sensu et des rêves de Nietzsche ou de Wagner concernant la possibilité de refonder une communauté humaine en réinjectant dedans un idéal tragique, etc. Ça, je pense qu'on est très... En tout cas, pourtant, chez Baudelaire, on n'est pas très loin de Nietzsche, mais de ce point de vue-là, je crois qu'on est quand même loin. Et je ne pense pas non plus que Pierre Huyghe... C'était ce qu'il voulait dire. Pierre Huyghe, ce qu'il voulait dire, c'était qu'au fond, lui, il s'intéressait à la programmation, j'allais dire, à l'avènement d'un public par un dispositif artistique. C'est-à-dire, il construit des dispositifs de représentation pour faire advenir une réalité qui est, par exemple, le public. Voilà. Et je pense que dans le terme de public, et finalement, il y a assez peu de contenu politique. Il y a quelque chose d'extraordinairement, j'allais dire, justement, non programmé politiquement. Ce qu'il appelle le public, c'est les gens qui sont là. Voilà. Ce qui l'intéresse, c'est véritablement comment est-ce qu'à partir d'un échafaudage de représentation, on accouche, on amène cet échafaudage à accoucher d'une réalité. Voilà. C'est-à-dire des gens qui sont là un jour. Voilà. Mais je ne crois pas qu'il y avait une dimension politique. Je ne pense pas que pour lui, par exemple, ce public, ce soit comme... la naissance d'une nouvelle communauté démocratique ou quelque chose comme ça. Enfin, il ne s'est pas du tout exprimé en ces termes-là. Ensuite, il faudrait peut-être lui reposer la question, mais moi, ce n'est pas du tout comme ça que je l'ai entendu. Et enfin, le terme de célébration, il l'emploie un peu justement pour faire objection au terme de critique. Pour lui, la célébration n'est pas critique. Et l'art doit être célébratif parce qu'il faut sortir d'un certain paradigme critique. Et c'était à partir de là qu'on avait discuté sur la question d'une critique qui ne serait pas de la contestation. Voilà. Et d'autre part, le pastoral dont vous parlez, vous l'associez au grégaire, alors que le pastoral chez Foucault, c'est pas le grégaire. Enfin, vous voyez, le biopolitique, on ne peut quand même pas le traduire par le grégaire, puisqu'il passe toujours par des stratégies de subjectivation, même si ce sont des subjectivations sur le mode de l'assujettissement. Vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense que tout ça, on n'a pas intérêt maintenant à reconfusionner, alors qu'on essaie de délier les fils de la problématique. Ce à quoi vous faites peut-être allusion, moi je me rappelle d'un artiste que vous connaissez tous, qui s'appelle Claude Lévesque, qui, lorsqu'il y avait eu cette grande exposition sur l'entertainment ici, à Beaubourg en 2000, je crois, avait réussi à transformer effectivement le public de Beaubourg en troupeau, et il l'avait dit d'ailleurs, c'est-à-dire il y avait une espèce d'organisation de la grégarité, de mise en scène du public comme d'un public grégaire de façon extrêmement provocante. Donc c'est peut-être ce que vous appelez vous les maîtres de cérémonie. Donc effectivement des artistes qui finalement essaient de dénoncer la notion même de public en montrant que ce qu'on appelle le public c'est effectivement une espèce de... C'est-à-dire c'est ce que vous appelez le grégaire. Moi je pense pas du tout que Pierre Huyghe soit dans ce type de choses. Je pense que il n'y a aucune volonté de démonstration chez Pierre Huyghe, de ce point de vue-là. Vous voyez alors ensuite, je ne vois toujours pas où est le danger. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vois pas ce que vous percevez comme un danger. Voilà, j'aimerais bien qu'on précise là-dessus, parce que c'est très important.
c'est qu'on s'est beaucoup interrogé sur à partir de quel moment une critique est possible, sous quelles conditions une critique est possible. Et là, moi, ma question, c'était davantage comment elle est rendue efficace, comment elle se transmet, quelles sont ses conditions de transmission. L'art comme célébration me paraissait être un bon moyen de transmission de ça. Donc quand on s'adresse à un public, quand on essaie de répéter sur, avec d'autres corps un geste de transgression qu'on aurait pu accomplir soi-même. Donc le qui dit public dit assemblée. Et comme moi je suis dans un univers très nietzschéen, je pense qu'il y a des artistes qui sont du côté d'une ouverture, d'un devenir, de valeurs positives, de tolérance, de remise en question permanente, etc. Comme quand on disait la transgression apporte de nouveaux moyens mais qui sont récupérés, donc il faut toujours, et c'est sans, presque sans fin. Mais d'autres qui pourraient être dans une clôture, qui pensent ne pas avoir de critique à fournir du tout, ou qui militent pour des idées qui ne sont pas à défendre du point de vue de la vie. Enfin, là, on est vraiment dans Nietzsche, quoi. Donc, ces gens-là qui arrivent à rassembler un public autour d'eux, mais en vertu de valeurs réactives, c'est ça, là est le danger. C'est, si on veut qu'une critique marche, elle est en fonction de certaines valeurs, il faut rassembler un certain public. Il ne faut pas se tromper sur ces valeurs, en fait. Je me dis juste que c'est les dangers relatifs à la constitution d'un public. C'est la constitution d'un public, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Donc c'est des gens qui peuvent après être encouragés dans quelque chose de créateur, non pas dans un processus d'assujettissement, mais il y a d'autres processus de formation de foule qui sont assujettissants. C'est juste ça. C'est juste ça. Je réfléchis en fait à... en fait, pour moi, on n'a pas encore répondu vraiment aux critiques qui sont possibles. Déjà, une critique qui n'est pas contestation, je trouve que c'est une idée extrêmement intéressante. Dans le sens où il y a... Quand on voit, il y a le dernier album de la chanteuse Björk qui est sorti, où dans tous les textes, elle n'arrête pas de dire « danser, célébrer, marcher, vous êtes fait de chair, d'os et de sang, vous êtes là pour célébrer ». Donc ça, c'est vraiment une critique sans contestation, c'est qu'elle sait bien qu'elle part d'un monde où il n'y a plus de célébration, où il n'y a plus de rite, où il n'y a plus de forme, comme ça, donnée aux énergies. Voilà, ce sont des questionnements, personnels.
Je vois bien, en fait. C'est sûr qu'il y avait une provocation de la part de Pierre Huyghe en introduisant ce terme de célébration, puisqu'il est évidemment ambigu, quoi. Et que l'exposition à laquelle vous faisiez référence, c'est Au-delà du spectacle, qui était une immense exposition qui avait donc lieu autour de 2000. Au-delà du spectacle, ça voulait dire, on a franchi l'écran, quoi. On a franchi l'écran du spectacle et on est dedans, on est tous dedans. Il n'y a plus de dehors qui garantirait la possibilité d'une critique. C'était une expo évidemment très très ambiguë, quoi. Donc, enfin, voilà.
Oui, non, mais pour l'instant.
Pas perdu dans les sables d'ailleurs, mais il faut toujours la répéter. C'est la question, c'est la pratique peut-elle être une instance de jugement, hein? Alors effectivement, j'avais dit, je préfère le terme de jugement au terme de critique, hein, parce que au fond, le terme de critique est tellement galvaudé, hein, que on ne sait plus du tout ce qu'on entend par critique. Donc on peut dire qu'effectivement, dans le rituel, il y a de la pratique. Que le rituel peut être ou non une pratique. Et on voyait bien qu'effectivement, dans le rituel que proposait Pierre Huyghe, enfin, dans la constitution du rituel, il y avait quelque chose de très pratique, et le, disons, on va dire, le, l'objet de cette pratique, c'est non pas la, c'est l'apparition d'un public, donc le public comme enjeu de la pratique. Et la pratique étant, disons, en l'occurrence, extrêmement médiatisée, hein, puisqu'il s'agit d'un montage de représentations extrêmement complexes les unes sur les autres, hein, qui aboutissent finalement, ultimement, à quelque chose comme un event, hein, finalement. Hein, voilà. Moi, ce qui me gêne un tout petit peu, finalement, c'est l'idée qu'il faudrait constituer le public. Parce que je trouve que vraiment c'est tout à fait dans la problématique du spectacle, hein, c'est-à-dire hein, constituer le public. L'idée même du public, hein, de toute façon, hein, c'est quelque chose qui est assez négateur de l'espace public. Hein, c'est-à-dire l'idée qu'il y aurait quelque chose qui serait du public et donc quelque chose qui ne serait pas du public. Hein, vous voyez ce que je veux dire, hein. Voilà, donc moi je vous renverrai cette question. Ensuite, est-ce que les rituels peuvent être dangereux parce qu'ils seraient au fond plus ou moins maîtrisés, hein, on peut dire, hein, parce qu'ils deviendraient des espèces de chorégraphies déjà écrites et déjà prévues finalement et aux effets déjà contrôlés et donc des opérations de pouvoir. Bah oui, mais on peut dire que toute la vie sociale est construite sur ce type de, hein, sur ce type effectivement d'assujettissement collectif par des choses qui sont pas forcément des rituels de manière très, qui sont pas vécues comme des rituels, mais qui sont des rituels. Finalement, ça, on n'échappe pas aux rituels. Voilà. Donc vous voyez, moi ce qui m'intéresse dans votre question, c'est effectivement la question de pratique et rituel. Il y a bien une dimension rituelle dans la pratique, hein, ça je crois que c'est vrai. Et ça, je retiens ça comme une, comme quelque chose qu'on n'a pas vraiment réfléchi encore. Hein. C'est-à-dire que il y a, ne serait-ce que dans la répétition qui est mise en jeu dans la pratique, quelque chose qui a du rapport avec le rituel. Hein. Ça, c'est tout à fait juste. Et donc, au fond, le rituel, si privé soit-il, à partir du moment où il met en jeu ce type de procédure fondée sur la répétition, il est d'ores et déjà collectif. Donc ça me paraît une... Mais je le retiens d'un point de vue sémantique, je pense qu'on pourra y revenir. Hein. Quand vous dites que la critique, la question c'est de savoir comment ça peut marcher, la critique, moi déjà j'aimerais bien qu'on arrive à comprendre, l'articulation entre le terme de pratique et le terme de critique, hein, parce que finalement on n'en a pas tellement parlé. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un geste critique finalement, hein, au sein d'une pratique. Voilà, donc il y a encore tellement d'interrogations, vous voyez que la question de l'efficacité, qui était le mot que vous avez prononcé, voilà. J'ai pas l'impression que d'un point de vue théorique, on se soit avancé suffisamment loin pour poser cette question de l'efficacité, vous voyez, hein, voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne se pose pas. Ça veut dire que pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on s'est donné les moyens théoriques de poser cette question. Mais qu'on en est plutôt à la question de savoir, au fond, qu'est-ce qui, dans la pratique, continue aujourd'hui à pouvoir mériter, hein, le nom de critique. Voilà. Donc j'aimerais qu'on sorte pas de ça. Hein, pratique n'étant pas à entendre forcément comme pratique individuelle.
Ce que je visais, en fait, c'est un peu le mystère du passage de l'assujettissement à l'individuation. Qu'est-ce qui fait qu'un homme, une femme, qu'un être humain va rentrer dans ce processus infini d'individuation? Pour moi, c'est un véritable mystère. Et moi, une de mes grandes questions personnelles, c'est comment faire passer des gens assujettis dans un processus d'individuation. Et pour moi, c'est un des gestes que j'appellerais critique.
Oui, mais c'est parce qu'à mon avis, vous pensez que les gens... vous dites qu'il faudrait les faire sortir de...
rentrer dans d'autres choses, hein. Mais moi je tendrais à penser, enfin c'est un peu ce que j'ai essayé de suggérer, c'est que précisément les individus sont construits par un certain nombre de technologies, hein, qui vont de la technologie traditionnelle aux technologies de l'infocom en passant par ce que Bernard appelle les psychotechniques, etc. etc. Bon. Et que toutes ces modalités d'inscription, elles sont des préalables à la subjectivation. Alors ensuite, elles peuvent construire des modes d'assujettissement, mais ce ne sont pas que des modes d'assujettissement. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est-à-dire, ils sont toujours virtuellement émancipateurs. D'accord, hein? Toute la question, c'est la manière dont, effectivement, dont de la pratique peut venir surgir, hein, dans ces modes de subjectivation qui sont des modes d'assujettissement. Et c'est à partir du moment où la pratique s'introduit qu'effectivement, il peut y avoir quelque chose comme une conversion, hein, de l'assujettissement en pratique de soi, en pratique de la liberté. Hein, voilà. Par certaines, on va dire, une certaine manipulation de l'intériorité. Non pas en tant que l'intériorité, ce serait quelque chose qui me concernerait, mais en tant que l'intériorité, c'est véritablement au contraire, je veux dire, le passage de la structure en moi. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc c'est ça qu'il faut. Vous voyez, hein, je pense qu'il ne faut pas se dire qu'il y a tout d'un coup, on viendrait arracher quelqu'un à une condition pour le faire accéder, hein, à quelque chose qui serait tout à fait opposé. Parce qu'effectivement, si on pose le problème comme ça, on n'en sort pas, d'une certaine façon. Il faut plutôt penser que ce qui l'aide finalement à s'assujettir, hein, l'aide aussi bien à s'émanciper. C'est-à-dire que c'est exactement, hein, les mêmes montages technologiques. Hein. Vous voyez ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Moi, c'était à propos de la séance du 30 mars,
qui me semble être la séance qui a précédé les vacances et donc la venue de Pierre Huyghe, je crois. Il y avait eu la deuxième partie de la séance, que j'ai eu l'occasion un peu de réentendre, mais je pense que tout le monde va se souvenir, où vous aviez posé des hypothèses qui étaient... très audacieuse, mais pas forcément facile à comprendre, autour de information, programmation, lecture, réécriture. Ma question, elle est strictement terminologico-conceptuelle, en fait, à savoir, qu'est-ce que signifient ces mots, qu'est-ce qu'ils visent proprement dit, et que comprendre, en fait, de l'hypothèse que vous suggériez, qui était qu'au fond, il faudrait parvenir à... soit c'est ce qui arrive déjà pour un certain nombre de pratiques, c'est de faire passer une logique de l'information détournée dans une logique de reprogrammation. Donc qu'est-ce que...
Tout à fait, alors il y avait plusieurs choses.
La première, disons, ce qui était sous-jacent à cette proposition d'élaboration, c'était de dire au fond, aujourd'hui les vrais enjeux critiques sont des enjeux épistémologiques. Et que, curieusement, s'il est vraiment question de détournement de l'intériorité pastorale telle qu'elle a pu finalement se survivre, ou telle qu'elle peut se survivre aujourd'hui à travers soit les culture studies, on va dire, hein, soit la culture de l'identité, soit aussi bien la culture dans sa version critique comme dans sa version non critique, hein, comme pratique de la consommation ou comme pratique, on va dire, revendication d'identité, hein, c'est-à-dire, au fond, à ce niveau-là, plus rien ne se passe.
Dire, vous dites que c'est épistémologique, c'est pour dire que c'est pas du côté de l'identité subjective.
Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à mon avis, le vrai effort à faire, c'est pour ça que je pense que quand même les instruments institutionnels de la critique, aujourd'hui, ça, c'est vraiment les lieux de formation, hein, véritablement. Hein. Le vrai enjeu aujourd'hui de la critique, ou le vrai lieu de la critique, il est vraiment, ce sont les lieux du savoir. Vraiment, et des lieux de la connaissance. Enfin, moi, j'en suis très très persuadée. Alors, ça paraît étrange de dire ça, parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, ces lieux du savoir et de la connaissance sont extraordinairement, j'allais dire, marginaux. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont progressivement repoussés, hein, aux limites de la société comme des lieux de spécialistes, etc. Alors qu'à mon avis, c'est véritablement là que les choses se jouent. Et ce que j'entendais, effectivement, c'est que, au fond, nous sommes véritablement dans des médiacraties, hein, réellement, hein, et que c'est à ce niveau-là qu'il faut travailler. C'est-à-dire qu'on peut quasiment plus dire un mot aujourd'hui, hein, qui ne soit, j'allais dire, un cliché. Enfin, c'est effarant. Hein, c'est-à-dire qu'on a vraiment à travailler, dire sur la question du pré-enregistrement. Quasiment, c'est un peu aussi ce que j'appelle l'exposition, hein, préalable. Hein, c'est-à-dire qu'au fond, là où le pouvoir peut-être s'inscrit de la façon la plus matérielle et la plus insensible à la fois dans nos existences, c'est le fait que c'est dans le pré-enregistrement de ces existences qui est quelque chose, disons, que quasiment on peut ignorer en croyant que nous utilisons des techniques, alors qu'en réalité nous sommes projetés par ces techniques, hein, sur des écrans de contrôle. Alors nous nous pensons comme des usagers, et nous ne sommes pas du tout des usagers. Nous fonctionnons à l'intérieur de systèmes qui sont des systèmes qui nous inscrivent, hein, sur des logiciels, dans des programmes, dans des réseaux d'information, dans des réseaux de savoir, etc. Et c'est ça un peu. C'est pour ça qu'on est vraiment dans une illusion. Vraiment comme la caverne, hein, d'une certaine façon. C'est-à-dire que vraiment, on pense qu'on... c'est pour ça que c'est extrêmement agréable, j'allais dire, d'une certaine façon, de s'enregistrer physiquement. Parce qu'au moins, dire, voilà, on sait qu'on le fait, d'une certaine façon. Hein. Alors qu'en général, on est pris dans des mécanismes d'enregistrement et on les occulte, on les forclos complètement. Hein. Ce qui fait qu'effectivement, il y a un sentiment d'irréalité formidable, c'est-à-dire que il y aurait une machine, hein, et alors c'est les représentations très paranoïaques qu'on peut avoir du monde d'aujourd'hui, hein, c'est-à-dire qu'il y aurait la grande conspiration de l'information, puis il y aurait des individus comme ça, hein, qui seraient des sortes de... à l'extérieur de la machine, pas du tout. Donc, moi j'ai effectivement le sentiment que tout l'enjeu, c'est de savoir... est-ce que, au fond, il y a des stratégies, j'allais dire, de manipulation et de récupération et de traitement de l'information au niveau, alors, des sujets de savoir que nous sommes, c'est-à-dire de ceux qui la gèrent, qui la réinscrivent, qui la transmettent, etc., qui en sont éventuellement les destinataires ou les émetteurs, hein, puisqu'on est quand même aussi dans ces positions-là, hein. Est-ce qu'il y a des possibilités de renvoyer l'information au programme, de toute façon, hein, c'est-à-dire d'être capable de lire, hein, c'est-à-dire d'opérer sur ces informations, vraiment, des opérations d'interprétation, qui seraient capables de, j'allais dire, de les déprogrammer, reprogrammer, les lire en fonction de leur programme, de lire leur programme, d'être constamment dans ce rapport, hein, de réinstaurer ce rapport de lecture à ces enregistrements qui nous constituent.
Mais en programme, en quel sens ? Le programme, c'est le programme d'enregistrement,
c'est-à-dire... Oui, c'est le programme d'enregistrement.
Et donc, un exemple de programme, c'est quoi ? Est-ce que, par exemple, cet outil-là, c'est un programme ?
Non, cet outil, c'est pas un programme. Hein, on est d'accord, cet outil, c'est un outil relativement rustique.
Oui, mais parce que je dis ça parce qu'on tourne autant de programmes au sens de format, en fait.
Ah oui ?
Format audio...
D'une certaine façon, d'ailleurs, quand même, les formats sont des résultats des programmes. Ce ne sont pas des programmes, mais ce sont des effets des programmes. D'accord ?
Et le programme, il a un temps
de... Mais en revanche, ce qu'on se dit là, ça va être enregistré, ça va être mis sur un certain logiciel, qui est celui utilisé par l'IRI, hein, et ça va être pouvoir écouter par des tas de gens, hein, voilà, qui ignorent tout de ce logiciel. Hein, c'est-à-dire qu'ils ne savent absolument pas ce qu'éventuellement ce logiciel pourrait faire ou ne pas faire. Hein. C'est au fond, il y a une espèce d'incroyable. Ensuite, on va recevoir ça comme si c'était le hic et nunc, hein, comme si c'était une transmission d'un contenu, mais pas du tout. Hein. C'est une transmission de ma parole, ensuite revue et corrigée dans un programme dont d'ailleurs moi-même j'ignore absolument tout, suivant un format dont moi-même j'ignore absolument tout, hein, et qui la met en ligne en même temps que d'autres choses, hein, qui ont probablement strictement rien à voir avec cette parole. Hein. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail là de programmation, d'information et de programmation de l'information, hein, qui vient filtrer au fond ce qui se passe ici, hein, ce qui au début a commencé par des lectures, des textes, des conversations, etc., hein, qui se construit ici in vivo, et qu'au fond on est dans l'incroyable naïveté de croire qu'au fond tout cet appareil d'enregistrement était simplement un appareil de transcription, ce qui est entièrement faux. Et je pense qu'au fond, la tâche aujourd'hui, c'est vraiment une tâche de devenir des lecteurs dans ce système-là. C'est-à-dire, des lecteurs, ça veut dire aussi des gens qui sont capables, d'une certaine façon, de suspendre. Hein. C'est quoi un lecteur ? Un lecteur, c'est quelqu'un qui s'arrête de déchiffrer. Hein.
pour relire et relire suivant d'autres modèles, hein, ou pour hésiter quant au modèle de lecture pertinent par rapport à ce qu'il dit. C'est-à-dire, et tout ça, évidemment, le lecteur est celui qui est aussi capable de le réinscrire. Voilà. Et je pense que, oui, je pense que les vraies questions aujourd'hui, c'est les questions de la critique, elles sont là. Hein.
Quand vous dites rendre lisible le programme, on va l'entendre dans un sens très bref, au sens où il s'agit de rendre l'artificialité artificielle. C'est-à-dire que finalement, tout cet enregistrement, cette situation, le fait que quelqu'un puisse l'entendre, tout ça n'est qu'une construction, il n'y a pas de naturalité qui fait que je sais pas, j'appuie sur un bouton, ça marche. Et je dis, on pourrait avoir une compréhension brechtienne de ça. Or, je me souviens que vous aviez conclu votre argumentation pendant cette séance en disant tout ceci nous éloigne infiniment des problématiques. La question n'est plus du tout celle de l'émancipation. On serait réellement passé dans des problématiques postmodernes. Or, comment faire tenir à la fois cette piste brechtienne et la piste... parce que chez Brecht, la question est bien celle de l'information et elle est bien celle du savoir. Enfin, s'agit-il d'un brechtisme postmoderne, en fait ?
Non, pour moi, la question est fondamentalement celle de l'information. On avait même parlé avec
et qu'on en avait déduit que finalement, après une hésitation sur le mot d'émancipation, qui était une hésitation qui était liée précisément au fait que c'était un mot qui était beaucoup récusé, hein, vous vous souvenez, hein, et j'avais eu un débat assez intéressant avec Tom Cohen sur la question, finalement, faut-il continuer à utiliser ce mot d'émancipation? Il était très contre, j'étais très pour, enfin, et c'était drôle parce que c'était en Chine. Et où ce mot avait aussi un écho aussi particulier, hein, et un sens particulier. Non, moi je revendique tout à fait le terme d'émancipation et je suis tout à fait, je veux dire, hermétique à l'usage du terme de postmoderne, sauf comme une citation, en disant le postmoderne, c'est une, j'allais dire, c'est une manière de découper, j'allais dire, la culture. Hein. Bon, on peut dire ça, mais pour moi, il n'y a aucun autre contenu que ça. Non. Ensuite, brechtien. Oui, vous avez raison. Brecht, c'est une question d'information, c'est une question de savoir, hein, et c'est une question d'artificialité. Ça, je suis assez d'accord avec vous. Oui, moi, je crois effectivement qu'on peut dire oui, c'est brechtien, non, mais je suis pas contre, hein, cette dénomination, mais c'est pas du tout postmoderne, hein, enfin, au sens où ces questions qui sont des questions... Moi, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont, au fond, on peut retraduire dans des anciens codes des nouveaux codes. Hein. C'est-à-dire, on peut retraduire des nouvelles pratiques dans des vieilles pratiques. Hein, c'est ça. C'est-à-dire qu'au fond, c'est pour ça que je m'intéresse aux arts de la mémoire, finalement. Hein. Moi, je suis assez d'accord pour passer pour une vieille brechtienne, mais pas pour une brechtienne postmoderne.
Non, mais je pense que vous aviez utilisé l'expression postmoderne... par rapport à cette idée de reprise, enfin la possibilité de reprendre des choses.
D'accord, en fait, vous voyez, c'est un excellent exemple. Hein.
C'est-à-dire que moi je vous fais très confiance parce que c'est quand même longtemps qu'on parle ensemble, que vous m'écoutez, que je vous écoute et qu'on sait à peu près l'un et l'autre ce qu'on dit. Bon. Donc il y a quand même des risques de malentendus. Bon, il est très très possible que j'ai dit postmoderne. Et ensuite, voilà que c'est gravé, hein, sur une bande, hein, que des gens, dans 25 ans, parce qu'ils vont évidemment archiver tout ça, hein, risquent de réécouter et vont commencer à construire une interprétation postmoderne, mais alors finalement, et Jameson, et bon, on va dire, et Brecht, je ne sais pas quoi. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est là le problème, hein, vraiment. Là, on est vraiment dans cette espèce de temporalité de l'enregistrement qui n'est tellement pas la temporalité de la pensée c'est là où il faut inventer, j'allais dire. C'est là où il faut inventer des modes de production qui permettraient d'une certaine façon que jamais ce mot ne se grave dans le marbre. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, ben on pourrait dire autrement. Non pas fondamentalement enregistrement des pensées qui suivraient des rythmes dissociés, mais c'est plutôt qu'il existe en fait des modalités de l'enregistrement qui fonctionnent, comme l'écriture
dans un article que vous auriez publié, si le mot apparaîtrait, je pense que le statut serait complètement différent, parce que vous ne vous aura pas échappé, en fait.
Voilà.
Et donc le problème, en fait, serait plutôt, dans ce que vous pointez, ce serait plutôt l'inadaptabilité, je ne sais pas comment dire, du sujet humain devant ces opérateurs d'enregistrement qui nous mettent pas en situation de pouvoir fabriquer de l'individuation, pour le dire.
Oui, ou qui nous mettent. Qui nous obligent d'inventer des modes d'individuation de plus en plus sophistiqués. Je crois qu'on a là vraiment une tâche énorme, enfin, je veux dire qu'il y a une tâche de pensée, enfin, d'être capable d'être à la hauteur de cet artifice. Ça, je le pense, oui, effectivement. Et que ça, c'est pas simplement, j'allais dire, des inventions, j'allais dire, c'est pas seulement des concepts, c'est pas seulement, j'allais dire, des procédures, hein. C'est pas seulement inventer des nouvelles formes de transmission. Évidemment, ça passe par tout ça, par inventer des nouvelles institutions, hein, de transmission, etc. Mais ça passe aussi par un rapport à soi. Et c'est là où on retrouve finalement, ultimement, cette question de l'intériorité, du travail, j'allais dire, du travail sur la biopolitique. C'est-à-dire que cette hypermédiatisation de la transmission, et dans le rapport que la transmission peut avoir à elle-même, induit, ne peut qu'induire, un rapport, disons, à ce qu'on pourrait appeler l'intériorité fabriquée, hein, c'est-à-dire à tout ce qui est de l'ordre de l'automatisme, hein, parce que l'intériorité, c'est ça, c'est quoi? C'est un appareil automatisé, en fait. Une espèce de retravail, d'élaboration, hein, de cette chose-là. Et je crois que, très paradoxalement, la modernité nous offre que des modes d'individuation extraordinairement élémentaires, alors qu'elle nous impose, hein, si on veut être, disons, précisément dans une perspective d'émancipation, des sujets hyper sophistiqués. Mais voilà, hyper sophistiqués, c'est-à-dire hyper classiques, d'une certaine façon. C'est-à-dire que c'est là où la question de la tradition redevient hyper importante, hein, la question de la rhétorique. C'est là où finalement, par rapport à ces machines d'enregistrement, on se dit mais c'est un scandale qu'on ne sache plus faire des discours. C'est-à-dire, c'est un scandale qu'on ne sache plus d'une certaine façon, parce que le discours, c'est ça. Hein, le discours, c'est comment écrire dans la tête de votre interlocuteur ce dont vous voulez le convaincre. Hein, c'est-à-dire, la rhétorique, c'est des modes d'inscription différés, pas différés. Enfin, vous voyez ce que et au fond, tout cet art oratoire, on l'a complètement perdu. Alors que c'est maintenant. Enfin, on n'en a jamais eu besoin autant que maintenant. Vous voyez ce que de même que ce rapport à la parole extraordinairement ritualisé. Qui est le discours, qui maintenant nous a complètement échappé, et qui a été remplacé par les médias. Enfin, c'est effarant quand on entend, par exemple, l'appauvrissement du discours politique entre les années 50 et aujourd'hui, c'est quelque chose d'effarant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment pas un homme politique qui puisse faire une phrase avec une principale et une subordonnée. Et ce n'est pas seulement parce qu'on leur dit qu'il faut faire des phrases courtes, mais c'est qu'à mon avis, ils en sont incapables. Si vous écoutez Maurice Schumann, hein, en 1950, ou en 1900, voilà, là vous entendez des messieurs, hein, ou des dames qui font des phrases qui durent une demi-heure, hein, et qui sont parfaitement limpides. Hein, et vous vous dites, mais c'est quand même formidable. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, là par contre, quand vous enregistrez ces gens-là à la radio, eh bien, justement, on peut presque les citer comme un livre. Hein, ouais, pas comme un livre, mais on peut citer ces émissions de radio. Je défie quiconque de citer une émission de France Culture actuelle. Même les gens les plus pointus intellectuellement. Parce qu'ils n'ont plus les techniques rhétoriques, hein, qui méditent l'enregistrement de la parole dans la parole. Hein, au fond, c'est ça que je veux dire, tout simplement. Et c'est pour ça que... oui, c'est pour ça que Baudelaire, on voit bien qu'il touche à un truc très très important sur la pompe. Hein. Sur la pompe, c'est pas seulement la pompe au sens... l'effet, la pompe, c'est la construction, hein, c'est-à-dire, c'est derrière ça, il y a quand même le livre du courtisan, enfin, je veux dire, il y a toute cette tradition extraordinaire, hein, de la construction de la vie, c'est-à-dire de son artificialité. Voilà, donc c'était un peu ça qui était qui est derrière mes propres réflexions, c'est ça en réalité. Alors vous avez, j'ai peut-être mal.
Je pense que c'est parce que c'est si vous avez
répondu, on pourrait ajouter que la banalisation ou la perte du discours a. Enfin, on pourrait renverser la causalité en disant que c'est précisément parce qu'il y a de plus en plus d'enregistrements qu'il y a une banalisation du discours qui fait qu'on n'y fait plus gaffe. Mais par ailleurs, concrètement, comment entendre le mot de reprogrammation ou de réécriture? Et quelle différence, en fait, entre... Enfin, c'est vraiment terminologique, mais c'est... Comme c'est des mots qui sont fléchés vers des topoi contemporains autour de l'informatique, ouais, voilà. Je sais que c'est pas innocent de votre part d'utiliser ces mots,
oui,
en fait.
J'entends votre phrase, comme aussi éventuellement l'idée que, au fond, est-ce qu'on ferait pas mieux de sortir de ce champ sémantique?
Pas forcément.
Parce que effectivement, non, mais c'est une réflexion que je me suis faite plusieurs fois, parce qu'effectivement, c'est un champ sémantique qui est énormément convoqué par tout le monde. Hein. Même dans le champ de l'art, on parle beaucoup de programme artistique. Même je crois que je me demande si Dominique Figuerella n'a pas parlé de programme.
Les hommes politiques parlent de logiciel.
Voilà, maintenant on parle de logiciel, voilà, pour les sociétés, donc on va reprogrammer les logiciels d'une société. Bon, évidemment. Et c'est vrai que quand j'entends ça, je me dis, au fond, c'est un champ sémantique qui est extraordinairement problématique. En même temps, bon, moi j'ai quand même le sentiment que cette question de l'écriture et de la lecture, hein, bon, il n'est pas complètement dans ce champ sémantique-là. On est d'accord, hein, sur que moi, le problème que je pose, le mot qui essaie de le conceptualiser le plus, c'est le mot d'inscription. Avec l'inscription, disons, elle est à cheval sur deux régimes. C'est à la fois l'écriture et puis en même temps l'inscription, ça peut être aussi bien les modes d'alphabétisation les plus contemporains. Voilà, donc qu'est-ce que c'est que l'inscription? Qu'est-ce que c'est que le support? C'est plutôt ça qui me semble préoccupant. C'est-à-dire aujourd'hui, on est dans des modes d'inscription qui, d'une certaine façon, nient leur propre support. C'est-à-dire que les stratégies d'inscription qui sont inhérentes aux technologies de l'information et communication, elles sont bâties sur le fait qu'à la limite, elles n'ont même plus de support. L'inscription, il y a de l'inscription sans support.
C'est pour ça que je parlais de brèche.
Voilà. Et je pense que la question de la lecture, c'est de dire non, c'est pas vrai. Il y a du support. Sauf que le support, d'une certaine façon, il est quasiment forclos par l'inscription elle-même. Et le boulot de la lecture, c'est de retrouver le support constamment. Voilà, c'est ça mon idée. C'est pour ça qu'au fond, moi je pense quand même qu'on ne peut pas complètement se passer de la référence à cet univers de l'information, hein, parce qu'au fond, il est en train d'éteindre sur toutes les autres formes d'inscription. Hein, et que même maintenant, j'allais dire, par exemple, on se rend compte que le support sur lequel s'opèrent les différentes modalités de l'écriture n'est pas du tout indifférent. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des temporalités qui sont liées au support. Hein. Que les supports sont aussi des mémoires. Hein. C'est-à-dire que quand vous écrivez sur un support, vous écrivez aussi avec la mémoire de ce support, hein, par exemple. Et que, au fond, tout cela, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et la lecture, évidemment, elle est aussi impliquée dans la mémoire de support. C'est-à-dire que, évidemment, pour donner un exemple très très simple, hein, je ne lis pas quelque chose qui m'est écrit sur un mail comme quelque chose qui m'est écrit sur une feuille de papier. Parce que la mémoire du support est complètement différente. Vous voyez ce que je veux dire, hein, et que d'ailleurs, de même que, je ne sais pas comment dire, à partir du moment où la conversation s'est complètement déformalisée, d'une certaine façon, elle est devenue sans objet. Hein, puisque, au fond, il n'y avait plus d'inscription sociale, finalement, derrière le fait de dire quelque chose à quelqu'un. Voilà. Et on est dans cette espèce de tentative constante d'essayer de retrouver du support, justement. C'est-à-dire de reformaliser d'une manière ou d'une autre. Hein, c'est-à-dire de retrouver des manières de parler entre soi, hein, pour prendre la question de l'oral qui est aussi très importante, des manières de parler qui fasse support, d'une certaine façon, hein, qui, fasse mémoire et qui permette que des conversations s'enchaînent, qu'il y ait une continuité, etc. Voilà, moi, c'est ces questions-là que je me pose, vous voyez. Alors, effectivement, c'est parce que je pense que les modes d'enregistrement anciens, plus anciens, en réalité, c'est un peu comme l'exposition. Hein. Ils sont d'emblée requalifiés par les modes d'enregistrement contemporains. Et que donc, on ne peut pas les évoquer hein, sans évoquer ces modes d'enregistrement contemporains. Mais votre question, elle est juste. Enfin, il faudrait...
Et alors, vous ajoutiez aussi que ces pratiques de réinscription échappaient à l'herméneutique et échappaient à l'interprétation.
Qu'est-ce que l'herméneutique, en fait, vient faire à ce moment-là? Je comprends pas, par contre, le...
Parce que, tout simplement, pour qu'il y ait système d'interprétation, il faut, d'une certaine façon, qu'il y ait, justement, c'est toujours cette question du support. Il faut qu'il y ait quand même la possibilité de retenir la chose. Hein, et que, lorsque vous êtes devant un flux d'informations qui est liquide, c'est-à-dire qui est en suspension continue hein, et dans un trafic permanent, hein, dans une transaction permanente, eh bien, au fond, il n'y a pas la consistance de ce qui est inscrit nécessaire pour qu'il y ait retour, passage, plusieurs passages, etc. C'est tout ce que je veux dire, c'est pas très compliqué. Au fond, là, je ne voulais pas tellement dire davantage que par le terme de lecture, hein, mais qui est peut-être, disons, un peu pauvre hein, par rapport au terme d'interprétation, mais c'était tout. J'ai répondu à peu près, mais on continuera là-dessus. Hein, oui, absolument. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Anna.
J'avais une question sur le travail de Dominique Lugarella quand il prenait l'image en fait, de la mouche, qui est toujours une espèce de parallèle par rapport à sa pratique, qui accompagne sa pratique. J'avais l'impression qu'il poser ça comme une espèce de baromètre qui lui permet de garder une distance comme ça dans le monde de la pratique et comme si c'était ça qui lui garantissait une position critique par rapport à son travail. Et vous lui avez demandé si la question qui suivait immédiatement c'était de savoir s'il y avait des objets qui n'étaient pas des objets temporels, donc si cette mouche pouvait constituer une instance critique. En fait moi c'était vraiment dans la mesure où il n'y a pas d'objets qui ne sont pas des objets temporels, je voulais savoir comment, du coup, repenser la dimension de la critique. Donc là, c'est ce que vous avez annoncé avec la question du support. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Ça voulait dire, s'il n'y a pas d'objet qui ne soit pas temporel, il n'y a pas d'objectivité. Donc en fait, la critique, c'est ce qu'il fallait entendre par là, c'est qu'il ne faut pas chercher d'objectivité à travers... cette position-là que...
Non, c'était juste... Non, justement, moi, ce qui m'avait... Disons, là où je ne suis pas du tout d'accord pas du tout d'accord, c'est absurde de dire ça, parce que lui, il présentait une espèce de tentative d'analyse au sens presque, génétique, hein, de ses manières de faire. Moi, je disais que cette idée, parce qu'il a vu cette expression qui était « étirer le temps de la perception ». Vous vous souvenez hein, cette idée de faire traîner les choses, étirer le temps de la perception, comme si il y avait la possibilité tout d'un coup, je ne sais pas comment dire, de devenir le maître soi-même du temps dans lequel se déroule l'expérience. Hein. Et comme si on avait la liberté, par exemple, hein, à la fois d'être dans le processus, on va dire, dans son automatisation, on va dire, et en même temps d'être là en train de regarder la mouche. C'est comme si on pouvait être dans cette espèce de... Et mon objection était de dire non. La succession, une espèce de déroulé dans lequel on est pris, à supposer même qu'il puisse être interrompu, et il ne cesse d'être interrompu, hein, puisqu'effectivement, on sait bien que le temps de la conscience, c'est un temps haché. Hein, c'est un temps qui s'interrompt de façon qu'il y a ces césures dont je parlais la dernière, toutes les 3 secondes, ça s'arrête. Bon. Donc c'est un temps qui est un temps haché, c'est un temps... Ces interruptions, on n'a absolument aucun contrôle sur ces interruptions. Et donc, moi, je m'interrogeais effectivement sur cette... sur la marge de jeu réelle, hein, objective, qu'on a sur un temps qui s'impose à nous, et qui n'est pas une matière ductile entre nos doigts, des instants. Hein. Voilà. Et voilà, c'était une question que je lui posais, alors, parce qu'il me semblait que là, il y avait une espèce de... C'était un peu un... Ce qu'il appelait en fait la mouche, en fait, c'est des représentations mentales. Hein. C'est-à-dire, en fait, ça fait partie du continuum psychique, c'est-à-dire c'est dans l'automatisme, et c'est simplement, on sait bien que dans ces automatismes, il y a des moments de simultanéité, etc. Mais je ne pense pas que la simultanéité, je ne pense pas que ce soit des choses extérieures l'une à l'autre, que tout d'un coup, on peut le praticien peut s'apercevoir de cette simultanéité. Non, je pense qu'elles sont coexistantes. Vous voyez, c'est plutôt des éléments qui se dissocient dans un ponctum temporel et dans un présent. Ce n'est pas des choses qui sont dans deux présents qui tout d'un coup viennent coexister. Enfin, ça me paraissait très très bizarre. Voilà. C'est tout. Voilà, c'était ça mon objection. C'est-à-dire, en tout cas, moi, je vois pas du tout que la critique puisse se dérouler, enfin qu'on puisse penser la critique dans une dimension aussi subjective, enfin, je veux dire, aussi radicalement celle d'une auto-observation. Voilà. Moi, je n'y crois pas. C'est-à-dire, moi, j'ai passé mon temps ici, enfin, au moins les premières séances, à essayer de remettre dans le processus de la réflexion quelque chose de l'ordre de la mémoire, hein, voilà. Donc, de rematérialiser le processus de la réflexion. Donc, c'est pas pour revenir à des sortes de... Hein, de posture, d'auto-observation complètement abstraite, enfin pour moi complètement abstraite. Hein. Parce que j'ai du mal, hein, je trouve ça très intéressant qu'il décrive son travail comme ça, parce que ça dit évidemment quelque chose. Hein. Mais que les concepts utilisés, à mon avis, n'étaient pas forcément... j'aurais pas dit ça dans ces termes-là. D'ailleurs, on en a reparlé puisque le lendemain, on était à Nice. Donc on poursuivait un peu, disons, le travail dans un autre séminaire. Donc on est revenu sur ce point-là, et donc moi je lui ai dit que j'étais pas... j'étais pas sûre de suivre. Mais en même temps, je peux pas tellement vous répondre plus que ça, hein, je peux pas vous dire plus que ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Rien ? Bon, bah écoutez, alors dans ces cas-là, on va suspendre... On se dit à vendredi prochain, donc 2h30, alors où ?
Petite salle
de Beaubourg. Vous allez recevoir une invitation. Hein. Et si possible, si vous avez le temps, si vous n'avez pas de cours, etc., si vous êtes disponible, mardi 17h, hein, au séminaire avec Eric Michaud.